Merci, Bonnie. Face, Boniface. On a des petits noms affectueux entre nous. Excusez. Eh bien, bonjour tout le monde. Bienvenue à ceux qui nous visitent, peut-être même pour la première fois, ou ceux qui sont en voyage, vous êtes en transit, vous êtes en vacances. Alors, j'ai vu quelques nouveaux visages ce matin avec nous. Puis, on m'a signalé que notre frère Frankie était ici. Frankie, bienvenue. Ton épouse? Bon, d'accord. Lève-toi. Levez-vous. Juste vous présenter Frankie et... et son épouse travaille dans le ministère depuis plusieurs années. Et puis, pour ceux qui ne le connaissent pas, ceux qui sont nouveaux, Frankie est pasteur à l'église baptiste juste aux côtés de la rivière. C'est l'église rouge, l'église baptiste à Ottawa. Et puis, vous traversez le pont King Edwards et c'est le bâtiment, l'église là, rouge. Là. C'est... eux qui travaillent là-bas ensemble, ils servent le Seigneur. Un frère avec beaucoup de vision, ils ont la vision, ils chérissent le projet d'implanter une église ici, dans la région, à Hull. Et puis, on veut certainement prier pour votre beau projet. Là. L'église se remplit beaucoup, sont rendus, je pense, à deux ou trois services. Et puis, tu prêches aux trois services? J'aurais pas dû dire ça, là. Les gens vont dire, bon, t'es capable de faire pareil, là. Là, j'ai pas été bien intelligent dans mon affaire ce matin. Mais un frère que j'aime beaucoup, que j'ai appris à découvrir depuis que je viens dans la région ici, vraiment un homme de Dieu. L'autre chose, d'autres nouvelles aussi que j'aimerais vous signaler ce matin, c'est que Chrétien et Isabelle, ils sont probablement occupés. Ils sont pas ici dans la salle, hein, je pense. Est-ce qu'on dit Chrétien et Isabelle? Ils sont probablement dehors. Vous savez, on vous a parlé depuis, je pense la semaine dernière, on vous a parlé d'un musée de la Bible qui va faire la tournée du Québec. Et puis, ça va vraiment être un projet pour répandre l'Évangile un peu partout, à Matane et tout ça, à travers la province. Et Chrétien et Isabelle vont nous donner un aperçu ce matin. Alors, juste à la sortie, quand vous allez sortir, vous aurez l'occasion de voir le musée mobile. Alors, c'est à l'extérieur, juste à côté. Donc, ils sont en train de s'installer, je crois. En arrière. Donc, veuillez prier pour ce beau projet de répandre l'Évangile à travers tout l'été. Alors, vraiment bien. Eh bien, cette semaine, j'ai reçu un appel, et un appel qui était triste, et je pouvais sentir dans la voix de ce frère, juste dans la voix. Vous savez, quand quelqu'un vous parle, et on sent le découragement parfois, juste par la voix, et puis ce frère m'a téléphoné vendredi, alors qu'on était sur la route, et je sentais une lourdeur au téléphone, et puis il m'a partagé qu'il y a un remaniement qui se passe à son travail, et tout ça, et probablement qu'il va perdre, il y a un beau menu commerce, et puis il va probablement perdre son gros client là, qui lui permet finalement de vivre et payer ses factures et tout ça. Donc, il passe à travers un moment d'épreuve, un temps lourd et difficile, il demandait des prières, et... on avait eu l'occasion justement de parler récemment, il y a quelques semaines, sur le risque qui s'en venait, il sentait ça venir. Et puis, c'est arrivé, il a reçu un téléphone vendredi matin lui annonçant cette triste nouvelle. Et sa prière, c'était sa demande, sa requête, « Prie pour moi parce que je veux tenir bon. » Et vraiment, il y avait comme cette lutte qui livrait de pouvoir bien prendre cette épreuve. Et il disait... vraiment, il veut bien faire. Il veut honorer Dieu dans son attitude et tout ça. En même temps, il a cette responsabilité de bien sûr payer ses factures et les responsabilités qu'on a tous. Et là, il se sentait vulnérable et il demandait vraiment des prières que Dieu puisse intervenir et l'aider, lui donner la force qu'il avait besoin, passer à travers ce temps difficile. Et je connais ce frère et un homme qui aime Dieu. Il voulait honorer Dieu par son attitude. Et c'est exactement ce qu'on a commencé à faire la semaine dernière, regarder une mini-série qui s'appelle « Détox pour l'âme ». On veut vraiment regarder ensemble une mini-série qu'on voit dans une portion de la lettre de Pierre. On veut s'arrêter sur ce passage dans Pierre qui nous montre justement comment faire face aux difficultés de manière à grandir à travers cette difficulté, à devenir même meilleur à travers ces difficultés, au lieu de devenir plus faible, même devenir plus fort et ne pas s'endurcir. Il y a des gens qui restent sur un ton amer pendant des années à cause d'une épreuve qu'ils ont vécue. On veut pas aller là. On veut au contraire devenir meilleur. Et Pierre, le message de Pierre, inspiré du Saint-Esprit, est justement de nous enseigner comment faire face aux difficultés et aux épreuves de la vie, aux problèmes de la vie, de manière à devenir meilleur, plus compatissant, nous enrichir, et plutôt que devenir plus amer et plus dur. Alors, on a commencé la série la semaine dernière et on va poursuivre cette semaine. Donc, j'aimerais vous inviter à tourner dans 1 Pierre, si vous voulez bien. 1 Pierre, chapitre 1. Et on va commencer la lecture au verset 22 et on va franchir le chapitre 2 ensemble et on va lire dans les versets jusqu'au verset 3 du deuxième chapitre. Alors, chapitre 1, verset 22. Alors, voici ce que dit la parole de Dieu. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Puisque vous avez été régénérés non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Est-ce que j'entends des amens ici? Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Eh bien, prions. Seigneur, ensemble, pendant que nous sommes en assemblée ce matin, je veux vraiment prier. Et ensemble, on veut s'unir pour ce cher couple, cet homme et cette femme qui t'aiment, qui veut t'honorer par leur attitude, malgré qu'ils viennent d'apprendre cette triste nouvelle. Et on te prie pour eux que tu puisses les secourir dans ce moment difficile. Et comme le souhaite son cœur, leur cœur, de pouvoir franchir ce moment difficile d'épreuve de manière à t'honorer et qu'ils puissent grandir à travers cette épreuve. Montre-leur ta fidélité à nouveau, comme tu le fais tous les jours, tous les matins. On te remercie d'avance pour ce que tu vas faire pour ce cher couple. Manifeste-toi, fais un miracle, Seigneur, à travers cette épreuve. De même manière, Seigneur, d'autres personnes sont ici, passent en ce moment par une épreuve, soit une épreuve au niveau de la santé. On pense à nos frères et sœurs qui vivent des moments où ils sont hypothéqués. On pense au cancer, aux maladies. On pense à d'autres où, avec leur vie de couple, le mariage qui est difficile ces jours-ci. Et même d'autres, Seigneur, où tout va bien maintenant. On sait qu'un jour ou l'autre, on vieillit et il y a des choses qui vont arriver dans notre vie, des surprises, parce que ça fait partie de la vie, que ça nous arrive. Mais Seigneur, ce que nous te demandons, c'est que tu puisses nous aider à faire face aux épreuves de manière à grandir et à t'honorer. Et on te prie que ce matin, ton Esprit Saint puisse parler à nos cœurs, qu'on puisse sortir ici grandi ensemble, déterminés et résolus à te glorifier. Au nom de Jésus. Amen. Bien, la semaine dernière, on a commencé à regarder ce passage et on veut apprendre comment faire face aux épreuves, aux problèmes, de manière à grandir, à sortir plus fort, à sortir meilleur et non plus dur, plus amer. Et ce qu'on a réalisé, la première chose qu'on a déterminée, qu'on a vu dans ce passage d'un Pierre, c'est qu'on a vu que c'était absolument impossible de réaliser, de faire face aux problèmes de la vie de manière à grandir de plus en plus sans passer par l'expérience que la Bible appelle la nouvelle naissance. On a vu dans les Écritures la semaine dernière qu'il y avait plusieurs expressions dans le Nouveau Testament pour décrire la même chose au niveau de la nouvelle naissance. On a parlé de toutes sortes d'expressions qu'on voit dans la Bible par la nouvelle naissance, mais essentiellement, on a vu que la nouvelle naissance était centrale au christianisme. Tu ne peux pas juste t'afficher comme chrétien et ne pas avoir passé par la nouvelle naissance. Ça ne se peut pas. Être chrétien signifie vraiment dans la Bible, le vocabulaire du Nouveau Testament, c'est vraiment quelqu'un qui a passé à travers l'expérience de la nouvelle naissance. Parce que la nouvelle naissance, comme on l'a vu la semaine dernière, elle est centrale, Elle est nécessaire, définitive, surnaturelle, complète et cohérente. On a vu ça la semaine dernière. C'est essentiel. Le passage qu'on va voir ce matin va faire ressortir un autre aspect à ce processus qu'on est en train de regarder dans 1 Pierre. Et le processus est placé, le message plutôt du passage est placé comme en sandwich. Tout d'abord, vous avez le verset 22 où il est dit « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité et le passage va terminer au chapitre 2, c'est un bloc, verset 2, ça dit « Comme des enfants nouveau-nés, grandissez pour le salut. » Mais au centre va se trouver un message. Et c'est quoi le message? Aimez-vous les uns les autres. Alors, c'est une exhortation à s'aimer les uns les autres. Pierre dit aux chrétiens, aimez-vous les uns les autres. Il commence en leur disant, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, ayant la nouvelle naissance, alors aimez-vous les uns les autres. Parce que vous êtes nés de nouveau, dit Pierre, parce que vous êtes en train de grandir en maturité surnaturelle et spirituelle, parce que votre intérieur est en train de changer par la parole de la vérité, parce qu'il y a un changement qui se produit, purification, une sanctification. Vous êtes en train de grandir dans la vérité, en laissant la parole de Dieu pénétrer vos cœurs. Alors, il dit, aimez-vous les uns les autres. Aussitôt qu'il dit, aimez-vous les uns les autres, il poursuit en parlant de la sainteté. Il continue. Il dit, débarrassez-vous donc de toute méchanceté, de toute ruse, de toute hypocrisie, l'envie, la médisance et tout ça. Et il revient ensuite en parlant de la croissance du chrétien, dans 2:2. Comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole, ainsi, grâce à lui, vous grandirez. Voyez-vous, Pierre est en train d'écrire un processus ici, un processus de croissance. Alors la question, c'est comment grandir en sainteté? Comment grandir vers une plus grande maturité surnaturelle? Comment passer où vous êtes maintenant et devenir de plus en plus comme Jésus-Christ? Quoi faire pour que le Seigneur façonne notre caractère? Eh bien, la réponse se trouve ici. Et ce matin, on va s'arrêter sur un des éléments qu'on va voir parce qu'on n'aura pas le temps de voir d'autres éléments. On va poursuivre la semaine prochaine parce qu'il y a la Sainte-Seine ce matin. D'ailleurs, la Sainte-Seine est tout à fait appropriée pour le message qu'on va regarder ce matin parce qu'on veut vraiment comme regarder notre cœur. On veut se voir où est-ce qu'on est rendu, puis en profiter pendant la Sainte-Seine pour retourner à l'Évangile et voir un petit peu où est-ce que j'en suis. À ce niveau-là, cet aspect-là, qui est vraiment de s'aimer les uns les autres. Nous, on va voir dans le passage deux absolus. Il y a deux absolus ici, non négociables, et en même temps deux guides, un peu comme des tests, guides, et qu'on va certainement aboutir à la Sainte-Seine avec ces deux tests, ces deux guides pour évaluer notre cœur devant le Seigneur. Mais on va commencer avec les deux absolus, si vous voulez. Voici le premier. Nous pourrons aimer les autres seulement par la nouvelle naissance et la croissance. D'accord? Aimez-vous ardemment l'un l'autre. Aimez-vous intensément l'un l'autre, dit le verset 22. Littéralement, ça dit, aimez-vous intensément d'un cœur pur. Comment faire ça? Comment s'aimer les uns les autres d'un cœur pur, absolument impossible sans passer par la nouvelle naissance. Et sans grandir aussi. Ça, c'est le point que Pierre va faire. Il faut absolument être très intentionnel dans notre croissance. Pierre nous dit, vous vous êtes purifiés en obéissant à la vérité pour vous aimer sincèrement comme des frères. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres avec un cœur pur. S'aimer d'un cœur pur, imaginez là. Un cœur pur. Pierre ne dit pas seulement « aimez-vous les uns les autres ». Il va pousser plus loin. Il nous dit de nous aimer comme si on faisait partie de la même famille. Et ça, c'est aller pousser pas mal loin, là. Et d'ailleurs, c'est ce qui frappait les premiers chrétiens. L'Église primitive, elle a grandi énormément, là. C'est à cause de leur message, mais aussi par leur témoignage de s'aimer les uns les autres. Et c'est ce qui frappait. Il y a un homme qui a fait une recherche du nom de Wayne Sturey. Beaucoup de recherches sur l'éthique de l'Église primitive. Et ce qu'il a découvert dans ses recherches, c'est que les gens, les non-croyants à l'époque du premier siècle, étaient étonnés de voir l'amour des chrétiens. Ça les frappait de voir. Écoutez, il dit, ce qui est étonnant dans l'Église, c'était dans leur assemblée, disait dans l'Église, ces croyants-là, ces chrétiens-là, c'est qu'ils s'aiment puis ils aiment même les étrangers qui arrivent. Tu peux rentrer là, on ne te connaît même pas, puis tu vas être accueilli comme si tu fais partie de la famille. Ça les a frappés, ça frappait les non-croyants du premier siècle. D'ailleurs, un terme qu'on employait, une expression affectueuse, qu'on entendait et dont on parlait chez les non-chrétiens, c'est ce terme frère, frère et sœur. Les premiers chrétiens s'appelaient frères, comme on le fait ici, on l'entend ici. Et cette expression-là, frère. Alors, pour un non-chrétien qui vivait au premier siècle, d'apprendre que tu peux être un étranger qui rentre dans l'Église et puis te faire accueillir comme si tu étais membre de la famille, c'était renversant. Et ça a contribué à la croissance phénoménale de l'Église. Et c'est avec raison que Jésus disait, hein, c'est à ceci qu'on va vous reconnaître que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres. Et ça a eu tout un impact, ça, déjà dans le premier siècle. Mais soyons honnêtes, c'est un défi. C'est un défi de s'aimer les uns les autres comme un, comme si tu faisais partie de ma famille, comme des frères et des sœurs. C'est un défi, parfois. S'aimer en chrétien comme si nous étions membres de la même famille. Sans la nouvelle naissance, là, c'est absolument impossible. Sans la nouvelle naissance, sans le miracle surnaturel de la nouvelle naissance, c'est absolument impossible de s'aimer comme ça, avec un cœur tout à fait pur. Hey, c'est phénoménal. Maintenant, avez-vous remarqué le nombre de détails que Pierre va employer ici dans son passage? Pierre sait qu'on a vraiment besoin de bien comprendre un point ici. Pierre aurait pu prendre un raccourci et simplement dire, « Ah, rejetez toute méchanceté, toute ruse, puis aimez-vous les uns les autres. » Mais il ne peut pas le faire. Parce que vous êtes en train de vous purifier, dit Pierre. Regardez tous les détails qu'il va ajouter. Parce que vous obéissez à la vérité. Parce que vous vous voyez en train de grandir dans la grâce. Parce que vous êtes né de nouveau d'une semence incorruptible. Parce que vous avez une puissance surnaturelle en vous. Et parce que vous êtes en train de grandir. Aimez-vous les uns les autres. Lorsque la Bible dit « aimez-vous les uns les autres » comme des frères et sœurs, pensez-y là. Lorsque la Bible dit « aimez-vous comme Jésus vous a aimé », ce que la Bible est en train de dire, c'est une demande tellement radicale, tellement profonde et tellement difficile que c'est absolument impossible pour nous de nous aimer comme ça, avec cette profondeur, cette intensité, non seulement sans avoir la nouvelle naissance, mais sans grandir. On a besoin de grandir absolument pour aimer de cette façon-là, de cette façon si radicale. Aimer notre prochain frère et sœur comme Jésus nous a aimés. Il faut grandir là-dedans. Nous sommes incapables de nous aimer comme Jésus nous a aimés. Non seulement nous est-il impossible de nous aimer si on n'est pas né de nouveau, mais en plus, la croissance est essentielle. Il faut être sérieux à vouloir grandir dans notre relation avec le Seigneur pour grandir dans cet amour-là. Lorsque les gens vous font du mal, quelqu'un qui te fait du mal, tu apprends quelqu'un à critiquer dans ton dos, tu apprends quelqu'un, même dans ce temps-là, il y avait même des persécutions, comme il y en a aujourd'hui dans le monde. Tu te fais persécuter, même pour ta foi, comme c'est le cas des gens à qui s'adressait cette lettre de Pierre. Ou même que ici, là, à ton travail, tu entends parler des rumeurs. Vous savez, les fameuses rumeurs qu'on entend, là? Quelqu'un a parlé contre toi, et tu ne sais pas ce qu'un tel a dit. Tu ne sais pas ce qu'un tel a dit de toi, ce que Mme Chose a dit, ce que M. Chose a dit. Regarde ce que cette personne-là a dit. Là, ta réputation est en train de noircir. J'ai même entendu parler de quelqu'un qui un frère qui me racontait comment à son travail, il a fait une erreur. C'est pas une erreur dramatique, c'est pas une affaire de vie ou de mort. Il a fait une gaffe à son travail. Puis tranquillement, ça s'est parlé entre les employés, les boss, les autres employés. Puis là, c'est comme si tout son département au complet le regarde comme s'il va trop faire des gaffes pour le restant de sa vie. Hey, y a-t-il quelque chose d'injuste là-dedans? Mon ami. Alors, quand ça t'arrive, tu as juste trois options, dans le fond. Tu as juste trois options. Un, tu rentres dans le tas, tu fonces, mon ami, puis là, tu es en colère, là, tu donnes toute ton amertume, puis tu montres que tu as de la haine, tu vas les haïr, puis alors, tu vas les chercher, puis tu leur montres ta façon de penser. Hein? Première option. Est-ce qu'il y en a qui font ça ici, là? J'entends pas d'amen. Bon. Puis à cette heure. Deuxième option. Deuxième option, c'est quoi? Puis il y en a beaucoup qui sont comme ça. Tu t'en vas, tu ne vas pas les chercher. Au contraire, tu t'isoles. Tu te renfermes, tu te sépares du reste, tu t'isoles, mais tu es haï pareil. C'est juste que c'est dans ton cœur, puis tu as de la haine dans ton cœur, tu as de la colère, puis ça reste. Ou troisième option, c'est que tu vas les chercher, puis tu les aimes. Soyons honnêtes. Quelle est l'option la plus facile? Ça dépend de votre personnalité. D'accord? Je vais formuler ça correct, là, parce que je ne veux pas que vous vous sentiez jugé, puis tout ça, là, je ne veux pas vous donner à l'écouter. Mais je vais faire ça correct. Disons que c'est un peu comme, pas tout le temps, mais si vous aviez tendance à, puis c'était autrefois, j'en ai mis assez, là, j'ai beurré pas mal, là, ça va être correct, là, c'est correct. Bon, un. Dites-moi, levez la main ceux qui ont tendance, parce que ça dépend. Ceux qui font face à des conflits, ceux qui sont portés à faire face à des conflits, puis ils aiment ça des conflits, ils vont sauter dans le top, ils vont dire leur façon de penser. Comment est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà fait ça, qui auraient peut-être tendance à, mais là, vous avez tellement changé. Levez-leur la main, là, ceux qui auraient tendance à faire face. Hey, vous êtes vraiment sanctifiés, vous autres, j'en viens pas, c'est vraiment bien. Quels seraient ceux, levez la main, ceux qui ont tendance, au contraire, à vous isoler, à vous retirer, mais vous avez de la haine, vous avez tendance à gérer cette colère-là en dedans, secrètement, dans vos petits coins. Levez la main très haut, là. Il y en a plusieurs comme ça, hein? C'est ça. OK. Levez la main si vous avez les deux. Essayez, là, dernière minute, juste... tu sais, des fois, on dit que la première réponse que tu réponds très vite, là, c'est pas censuré, c'est vraiment le cœur qui sort, là. Donc, là, je vais juste voir. Ah, c'est pas évident. Alors, ceux qui aiment les conflits vont tout de suite sauter à la première option, puis là, les autres vont à la deuxième. Mais le cœur est pareil, ça change pas, le cœur est pareil. Le premier, c'est juste qu'il se défoule, puis c'est tout. Mais l'amour du chrétien va tout à fait à l'autre bout de la gamme, à l'autre extrême de la gamme. Imagine-toi, par nous-mêmes, c'est pas naturel. C'est pas naturel de dire « Ah, oh, je vais l'aimer. Ah, oh, il m'a fait du mal, il a tout ruiné ma réputation. » Je vais l'aimer. Puis je vais aller lui dire à part de ça, est-ce que je peux t'aider? Est-ce que je peux te faire du bien? Est-ce quelque chose? Là, j'ai un petit peu de temps. Je prendrai même pas mon break. Je vais te faire du bien. Là, j'aimerais ça t'aider. Tout. Honnêtement, là, est-ce que c'est naturel, ça? Non, non. Ça, c'est vraiment à part. Ça prend un miracle pour ça. Là. D'accord? Ça prend absolument un miracle. Ça, c'est pas naturel. Par toi-même, on n'y aurait même pas pensé, honnêtement. Là. Par nous-mêmes, on n'aurait même pas pensé à cette option-là. C'est soit un ou deux, ça s'arrête là, là. Par nous-mêmes, on n'aurait jamais pensé à cette option-là. C'est tout à fait contraire à la sagesse populaire. C'est contre nature. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu te laisses détruire. L'apôtre Paul lui-même a fait appel à César pour se défendre. Il a fait usage de justice. On comprend. Néanmoins, il y a un cœur d'amour. C'est pas de la haine, la vengeance. Tu ne souhaites pas la vengeance. Alors, ce genre d'amour est si radical, et ça, je pense, c'est justement la leçon, le premier principe, le premier absolu que Pierre veut laisser entendre, c'est que c'est absolument impossible. Ce genre d'amour, c'est si radical et si contre-nature que ça te prend absolument une intervention divine pour l'avoir, ça s'appelle la nouvelle naissance. Et deuxièmement, tu as besoin de grandir aussi. Alors, nous avons besoin de la nouvelle naissance pour aimer les gens, comme s'il faisait partie de ta famille. Alors, on a besoin de la vie de Dieu qui coule en nous, et c'est ce que dit d'ailleurs 1 Jean 2,7, ce passage qui dit, « Bien-aimé, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Toutefois, verset 8, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Celui qui prétend être dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. » Jean, l'auteur de cette lettre, Jean essaie de lui faire comprendre un principe ici. Tous savent qu'il faut s'aimer, dans un sens. Alors, dans ce sens, c'est un vieux commandement. Mais lorsqu'on devient un enfant de Dieu, un chrétien, qu'on passe à travers la nouvelle naissance, on commence vraiment à s'aimer de façon beaucoup plus sincère par la puissance de Dieu. Ça, c'est le premier absolu. Aimer à ce niveau-là, comme les Écritures nous le demandent, c'est impossible. Sans la nouvelle naissance et sans la croissance. C'est la raison que Pierre continue en disant ceci, à moins de vous purifier et de grandir, à moins d'avoir soif du lait spirituel comme un enfant, tu ne réussiras pas. Et le deuxième absolu qu'on a déjà commencé à regarder, c'est ceci. Nous devons nous aimer, aimer les chrétiens, comme s'ils faisaient partie de notre famille. D'un côté, ce genre d'amour n'est impossible qu'à travers la nouvelle naissance et une croissance surnaturelle. Mais en même temps, il est absolument nécessaire d'avoir ce genre d'amour-là pour prouver que tu es réellement né de nouveau. En d'autres mots, ce genre d'amour-là est inévitable lorsque tu poursuis la croissance. Tu vas l'avoir. Même si c'est difficile, la croissance va la rendre inévitable. D'ailleurs, c'est un test. C'est le test pour savoir si tu comprends bien l'Évangile. L'amour pour les frères et les sœurs est la marque du chrétien. À la fin du message de la semaine dernière, on a parlé sur la nouvelle naissance, puis on a parlé des expressions de nouvelle naissance, on a expliqué ce que c'est, etc. Quelques personnes sont venues me voir et passent à travers un cheminement où ils se questionnent à savoir s'ils sont vraiment nés de nouveau. Et c'est une bonne question, une question solennelle. Elle est importante, cette question-là. Et laissez-moi vous aider. Si vous êtes là, si vous êtes en train de passer à travers ces questionnements-là, laissez-moi vous donner trois tests que Jean donne. Jean lui-même va les donner, ces trois tests-là. Alors, dans Jean nous dit que si l'on veut savoir si nous sommes vraiment chrétiens, il y a trois tests. Il y a le test doctrinal, le test moral et le test social. Laissez-moi vous commencer par le premier, le test doctrinal. Le test doctrinal, c'est croire que Jésus est bel et bien celui qu'il prétend être dans les Écritures, c'est-à-dire le Fils de Dieu. Il faut croire au message qu'il a livré. Il faut croire à la révélation qu'il a donnée. 1 Jean 4,15 dit par exemple, « Celui qui déclarera publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. » En même temps, dans Jean 8, 24, ça dit ceci, « Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez tous dans vos péchés. » Donc, de croire au Jésus tel qu'il est révélé par la révélation de Dieu, c'est-à-dire les Écritures saintes, c'est vital. C'est vital. Alors, c'est le test doctrinal. Deuxièmement, vous avez un second test, c'est le test moral. Vous devez démontrer que vous avez pris la décision de suivre le Seigneur au sérieux, au point de chercher à mener une vie pieuse et vous repentir et chercher à grandir dans votre sainteté, de lâcher des vieilles habitudes et de chercher à avoir la victoire, progresser. Voici ce qui est dit dans Jean 8, 20, dans 1 Jean 4, excusez, 15. Non, je ne suis pas là. Dans 1 Jean 2, excusez, c'est ça. Si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. En d'autres mots, il va avoir un pattern. Quelqu'un a bien décrit la vie chrétienne comme, pas comme ça, mais comme ça. Oui, il va y avoir des hauts et des bas, il va y avoir des moments de sécheresse, ça va arriver, ça va y avoir des temps difficiles. Mais il y a un pattern qu'on voit, c'est que la personne va chercher à grandir. Évidemment, on n'est pas parfait. Et c'est pour ça que dans la même lettre, on va nous dire « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. » Et tout de suite après, ce qu'il va dire, le verset, juste après, il dit, « Mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, parce que c'est sûr, nous sommes tous pécheurs, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés. » Donc là, on retombe à l'Évangile, on revient à l'Évangile. Que Jésus a pris notre place à la croix pour ça. Et on peut confesser nos fautes à Jésus-Christ, pas traîner cette culpabilité pendant des années. Non, on ne se laisse pas écraser par le péché. On veut se repentir, on confesse notre faute au Seigneur, on se relève et on continue. Ça, c'est le pattern qu'on va voir. Et ça, c'est le test moral, le test doctrinal, le test moral. Et troisièmement, le test social. Le test social, c'est justement le test de l'amour. C'est là le test de l'amour. 1 Jean 2 dit ceci, « Celui qui prétend être dans la lumière » et qui est son frère, est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et aucune occasion de chute n'est en lui. On retourne à Pierre maintenant. Regardez comment il exprime la même idée essentiellement. Il va dire ceci au verset 22. Il dit, « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » Voyez-vous ici le lien qu'il va faire de cause à effet? Obéir à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Voyez-vous, il y a un rapport ici, cause et effet ici. Avoir obéi, avoir reçu l'Évangile dans son cœur, purifie l'âme pour aimer les uns les autres, aimer les frères et sœurs. Alors, comment savoir si on a compris l'Évangile? tu as purifié ton cœur avec l'Évangile, tu aimes les autres chrétiens sans déception, sans hypocrisie, sans convoitise, sans envie, sans médisance. La raison que l'amour est un test, c'est que tu peux avoir vraiment une pureté doctrinale. Tu peux avoir une pureté morale, c'est-à-dire que tu peux mener une bonne vie par motif de la famille, tu le fais à cause de ta famille, ou tempérament, tu as un tempérament tranquille, alors ça peut donner des impressions. Mais l'amour, là, l'amour de ton prochain, aimer Jésus comme aimer ton prochain, aimer tes frères et sœurs comme Jésus les a aimés, là, ça vient te chercher, là. Si tu es une personne exigeante, puis on te connaît pour être une personne qui critique souvent, tu es froide, distante, difficile d'accès, il faut sonder son cœur. Il faut regarder son cœur. Si on a bien été purifié par l'Évangile, c'est le test, l'amour. Tu vois un frère qui commet une gaffe, une erreur ou un péché, etc. Quelle est ton attitude à son égard? Est-ce que tu vas le fuir? C'est malheureux de constater que dans les églises, il y a des chrétiens qui se fuient. Et plus en plus qu'on est une église qui grandit, qui est une église grandissante, tu peux littéralement te cacher dans une église. Tu peux venir parce que tu as besoin, tu veux entendre, tu veux louer le Seigneur, la bonne musique et tout ça, tu veux entendre la parole de Dieu, etc. Mais tu peux vraiment comme rentrer puis sortir pas mal vite, là. Puis dans la foule, surtout maintenant qu'on a deux services, ça peut... Est-ce que quelqu'un va le remarquer? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais c'est pas ça que tu veux. La personne qui reçoit l'Évangile, qui comprend l'Évangile, va aller là, va vouloir grandir dans son affection et son amour pour les frères et sœurs dans l'Église. Il va vouloir aimer l'Église, il va vouloir aimer ses frères et sœurs. Il va les aimer comme faisant partie de ta propre famille. Il va les traiter comme ça. Est-ce que je suis une personne bougonneuse, reconnue pour être une personne froide, difficile? Voici comment on sait si on a cru à l'Évangile. Voici ce que dit Pierre. « Ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel, sincère. » Imaginez, il va employer deux mots ici, pas mal fort. Un amour sincère, c'est-à-dire qu'on aime sans malice, sans méchanceté, sans ruse, sans dissimulation, ni envie, ni médisance. Ça, c'est un test. Absolument, la doctrine, c'est important. C'est majeur, la doctrine. C'est important. On ne peut pas être un chrétien sans croire aux doctrines essentielles des Écritures. La moralité aussi est importante. Jésus a dit lui-même, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il va le dire, ça. Mais le test, un test important, majeur, c'est vraiment l'amour. Dans Jean 13, 34, c'est écrit, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et c'est même qu'on a vu que la croissance de l'Église au premier siècle. Et la raison est bien simple. Ça démontre que tu as compris l'Évangile. Parce que pensons à l'Évangile, à un moment donné. L'Évangile a deux parties. Premièrement, c'est que vous êtes pécheurs. L'Évangile dit ça. C'est ça, le message de l'Évangile, c'est un, vous êtes pécheurs. Et à mesure que vous réalisez que vous compreniez l'Évangile, vous réalisez à quel point vous avez péché. Donc, ça a tout un impact sur moi. Ça a des incidences sur mes relations avec les autres, frères et sœurs, n'est-ce pas? Parce que si je me vois pécheur, je ne peux pas me voir meilleur que les autres. Parce que je sais que vous êtes pécheur, je suis pécheur, j'ai fait des erreurs, des gaffes, j'ai péché dans le passé. Regarde en arrière, regarde dans les 10 ans en arrière, là, toutes les erreurs que tu as pu faire. Alors, c'est évident que si tu as fait des erreurs dans le passé, est-ce que tu peux en faire maintenant? Alors, ça se peut que c'est pas toi qui as raison. Ça a un impact même dans la vie de couple quand tu réalises que tu es pécheur. Même dans que ce soit célibataire, que tu sois célibataire ou marié, ça a un impact dans tes relations avec les autres. De dire que je suis pécheur. Par ce principe-là, avec l'Évangile, je suis pécheur. Je vais faire des erreurs, je vais faire des péchés, je vais faire des erreurs, je vais être maladroit, je vais faire des gaffes, j'en ai fait dans le passé. C'est certain, je dois être en train de les faire. Je ne sais pas où ils sont, comme quelqu'un a déjà dit, si je savais où ils étaient, je changerais. Peut-être, je ne sais pas où ils sont les erreurs que je suis en train de faire, mais pars du principe que tu en as fait dans le passé, tu dois être en train d'en faire, puis tu vas en faire encore demain. Êtes-vous d'accord avec ça? Donc ça a tout un impact dans mes relations là, avec les autres. Ça va me rendre plus humble, moins dur. Je vais moins parler comme si j'étais au-dessus de mes affaires. Parce que je réalise que je suis un pécheur, moi aussi. Une personne qui critique tout le temps ne laisse pas voir qu'elle a vraiment compris l'Évangile. Cette attitude de critique, il y a des gens qui sont toujours critiqueux, toujours, toujours. Ils font toujours sortir la gaffe que tu as faite au lieu de bons coups. Ça ne parle jamais des bons coups. Tu vas toujours parler des mauvais coups. Tout le temps. Là, je suis là, je dis, bon, l'ami, voudrais-tu qu'on fasse ça avec toi, vraiment? Au contraire, l'Évangile ne produit pas des gens négatifs. Êtes-vous d'accord avec ça? Est-ce que j'entends un gros amen, un amen, là, fort, là? Est-ce que l'Évangile produit des gens négatifs? L'Évangile va produire des gens qui traînent un fardeau, évidemment. Il va avoir un fardeau. Tu vois, les gens, les femmes de Dieu, les hommes de Dieu vont traîner un fardeau des âmes. Il va avoir comme une sorte de tristesse. On voit Paul avec une certaine tristesse, une lourdeur sur son cœur pour des âmes qui se perdent. On comprend ça. Mais n'est-ce pas le même Paul qui pleurait jour et nuit pour les églises, l'état des églises, tout ça? N'est-ce pas le même Paul qui va écrire un chef-d'œuvre sur la joie, qui nous dit, alors qu'il est en prison, de se réjouir sans cesse, sans arrêter, de se réjouir tout le temps dans le Seigneur? C'est ce que l'Évangile produit. Il y a une joie ici qui est dans le cœur. Premier aspect, ça, de l'Évangile. Je suis pécheur. Alors, ça me permet de comprendre ça, pour comprendre l'Évangile, me permet d'aimer les autres comme si c'était membre de ma famille, comme Jésus les a aimés, tendre vers ça. Et deuxièmement, l'Évangile, l'autre aspect de l'Évangile, c'est que je suis accepté, je suis aimé, le Seigneur m'aime, m'accepte, moi qui est pécheur, il m'accepte. Ça, c'est l'autre volet. Est-ce que tu crois ça dans ton cœur? Es-tu convaincu que Dieu t'aime dans ton cœur? Il y a des gens qui traînent des culpabilités pendant des années. Ils ont des difficultés à croire vraiment dans leur trip. Que Dieu les aime, qui sont acceptés, qui sont pardonnés pour toujours. Pierre et Jean, les deux, nous disent que d'aimer les frères et sœurs, c'est un test, et c'est un test qui parle fort. Nous devons voir cet esprit d'amour grandir en nous. On doit le voir grandir, on doit le rechercher, on doit être intentionnel pour grandir dans cet amour-là. Sinon, c'est signe que, est-ce que j'ai bien compris vraiment l'Évangile, comme je devrais le comprendre? Alors, le premier absolu, c'est que ce genre d'amour, c'est tellement radical, tellement profond, c'est absolument impossible sans l'aide de Dieu. Et on doit être dans un processus de croissance. Le second absolu, c'est que ce genre d'amour est absolument nécessaire, c'est le fruit de l'Évangile, d'aimer les autres, les frères et sœurs, comme s'ils étaient un membre de ma famille. Deux guides pour nous aider, comment savoir si j'ai cet amour-là et où j'en suis. Deux guides. Premièrement, l'amour chrétien sincère. Deux mots. Pierre va se servir de deux mots. Il dit, « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. » Après ça, il dit un deuxième mot, « Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, avec un cœur pur, dit littéralement. » Regardez ces deux mots. Amour sincère. « Je t'aime sincèrement. » Ça veut dire quoi, ça? Est-ce que vous aimez sincèrement? Comment? Ça a l'air tellement abstrait. Hein? Ah, je t'aime. Je suis sincère quand je dis ça. Mais c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire vrai. Parfois, comme chrétien, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dire la vérité. Ça veut dire que c'est vrai. L'amour se réjouit de la vérité. Et des fois, on va être appelé à dire des choses qui sont difficiles à entendre. Mais c'est la vérité. Alors, il faut faire attention, là. Parce qu'avec le temps, il y a quelque chose qui s'est glissé sournoisement où on fait un synonyme entre l'amour et la tolérance. Il faut faire attention, là. C'est sournois, c'est arrivé, c'est vicieux, ça. Et on peut prendre l'impression, on peut avoir l'impression, finalement, que l'amour égale, c'est synonyme de la tolérance. Je dirai rien. Continue. Hein? Je dirai absolument rien, je ne m'en mêlerai pas. C'est comme dans la société, les chrétiens qui ont pensé qu'il ne faut pas se prononcer à l'endroit de certains votes qui se prennent, certaines questions sociales dans la société. C'est contraire. S'il y a quelqu'un qui doit se prononcer, c'est bien des chrétiens. Pas vrai? Comme en ce moment, là, mon frère Marc Bacon me disait là, récemment à son fils, vous savez, ils ont déposé une loi là, au gouvernement, la loi là, 52, et c'est pour l'euthanasie. Et ils vont comme discuter de ça, réfléchir là-dessus. Et les chrétiens, on a besoin de prendre position. Le fils de Marc, justement, David, qui est à Montréal, a pris position, une belle lettre qui est écrite. Une lettre qui est écrite, qu'il a écrite c'est écrit à la Gazette, la presse, ça a fait Il a fait même une entrevue à la radio et tout ça, et je le félicite d'avoir pris position comme ça. Il a bien fait, c'était respectueux, il faut bien le faire. Et d'ailleurs, si vous voulez avoir une copie de la lettre, on en a fait plusieurs copies au kiosque, vous allez juste demander au kiosque d'en avoir une. Et moi, j'aimerais vous encourager. J'aimerais vraiment vous encourager, vous sommer ce matin de prendre position, écrire une lettre au gouvernement, à votre député, et de dire, de vraiment dire que vous êtes inquiet puis que vous n'êtes pas pour ça, vous ne voulez pas encourager l'euthanasie. Et ça, faut se mouiller. Là. Il faut vraiment se mouiller. Et l'amour, c'est pas la tolérance. D'accord? C'est pas pareil. Ça, des fois, ça l'est. Mais pas toujours. Et dans le cas ici, je pense que, Marc, je ne sais pas si tu as le temps, si tu es pressé, peut-être te tenir au kiosque à la fin, si tu as le temps. Peut-être des gens, si vous avez des questions, vous pouvez aller voir juste au kiosque à l'arrière. Marc va être là, puis prendre quelques minutes. Si jamais vous ne savez pas. Des fois, ça fait gros écrire une lettre au gouvernement. Ça peut être, mon ami, le gouvernement, ça m'en. Mais il y a des voies pour ça, très claires. Moi, je vous encourage. Mais des fois, ça, c'est une question sociale. Des fois, c'est un frère ou une sœur qui a besoin de communiquer quelque chose qui est difficile. Et là, tu te poses la question, tu dis, ouais, franchement, si j'y communique ça, je devrais lui dire, je l'aime, je veux lui dire, mais en même temps, si je fais ça, non seulement je veux l'attrister, je veux lui faire mal, mais ça se peut même que ça soit fini entre lui et moi. Et ça arrive. C'est vrai que ça arrive. Malheureux, ça arrive. Mais la vérité, l'amour, dit 1 Corinthiens 13, se réjouit de la vérité. Il y a une façon de le faire, absolument, il faut être poli, il y a une façon de communiquer, c'est des principes de communication, c'est sûr, il y a une façon de le faire, comme avec nos enfants, c'est faut le faire. Mais c'est à peu près comme laver du plancher. Tu sais, tu veux laver un plancher qui est sale, qu'est-ce que tu fais? Tu ne prends pas la chaudière propre avec l'eau propre, prends la chaudière, tu la vides toute sur l'eau, sur le plancher, tu ne fais pas ça, parce que qu'est-ce qui va arriver? La saleté va tout se répandre. Non, tu en prends juste un petit peu à la fois. Et c'est comme ça qu'on communique. Hein? Des choses difficiles, on communique tranquillement, un petit peu d'eau savonneuse, juste un endroit, tranquillement. Et tranquillement, la chaudière va se vider, mais c'est par morceaux. C'est tranquillement. Et c'est comme ça qu'on communique. Il y a un bon moment pour communiquer. Il y a une façon de le faire. Il y a, tu sais, Galate, dans un esprit de douceur, avec beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour, être délicat, réfléchir, prier avant. Et est-ce que c'est l'autre personne qui a besoin d'entendre ça? Est-ce que c'est vrai? Tu veux valider? Puis même là, quand tu as des doutes, il y a une façon de le communiquer, tes doutes, de dire ouvertement à la personne, tu sais, écoute, je ne suis pas sûr. Ça se peut que je suis dans le champ royalement. Prie pour moi, je ne suis pas sûr. Et je ne veux certainement pas t'offenser avec ça. Je suis sous l'impression que... Et je veux prier pour toi. Et il y a une façon de le faire. D'accord? Et c'est pareil aussi avec les couples. Même chose. Il y a un temps pour ça. Il y a un temps. Même si c'est écrit dans les Écritures, ça. Il y a un temps pour communiquer des choses difficiles. Alors, c'est un amour sincère. C'est un amour qui est vrai. Qui va dire des choses, même parfois, qui sont difficiles. Mais c'est vrai. Alors, on a besoin d'un amour sincère. On a besoin aussi d'un amour profond. Deuxième terme qui est employé ici, c'est un terme qu'on employait pour les courses à longue distance. Aimez-vous ardemment les uns les autres d'un cœur pur. Ça parle d'endurance, persévérance. Ça, c'est difficile. On a besoin de la grâce de Dieu. Là. Parce que vous savez comment c'est que c'est quand quelqu'un, si tu me fais mal, je vais avoir tendance à te fuir. Je ne courrai pas. Tu ne seras pas le premier que je vais venir te voir le dimanche matin. Dis, comment ça va? Moi, il est ta semaine. J'ai prié pour toi cette semaine. Hein? Honnêtement, c'est... Mais Pierre dit, garde, quelqu'un qui comprend bien l'Évangile va faire ça. Où est-ce que tu en es là-dessus? Va faire ça. Ne cherche pas à fuir. Est-ce que ça se peut qu'il y ait des gens qui s'assoient là, puis d'autres s'assoient là par exprès? Jamais de la vie. Hein? On n'est pas comme ça à Gatineau. Ça va arriver. Mais non, il ne faut pas. Faut pas faire à travers ça. Et je pense que ici, ça parle de la course, dans le fond. Littéralement, c'est un bel exemple de course, de marathon. Et littéralement, ça veut dire s'étirer. En d'autres mots, ça fait mal, là, mais tu continues, puis tu t'étires, tu y vas, tu continues, tu persévères. La course, c'est drôle, la course. Quand tu commences à t'entraîner, même quand ça fait plusieurs moments, quand tu t'entraînes, tu fais de la course, tu vas gagner à long terme. Mais sur le coup, bon, on sent que ça fait mal. C'est plat, c'est pas le fun. C'est pas le fun le lendemain, t'as mal partout. Tu te fais mal. Tu te fais violence. Courir, mon ami, puis t'exercer, faire des exercices, tu sais, no pain, no gain. Mais c'est drôle parce que la chose même qui va te rendre plus fort quand tu fais de l'entraînement, qui va te donner plus d'énergie à long terme, va t'épuiser à court terme. D'accord? Et je te dis, le Seigneur est pas mal sage de se servir de ce mot-là ici pour nous donner une piste ici de comparer la façon de nous aimer ardemment à une course à long terme comme un marathon. C'est pas un sang à verge, là. C'est long. C'est, tu t'étires, puis tu cours à long terme. Donc, ça va être tough pour un temps, mais tu vas gagner à long terme, comme l'entraînement. On le voit, comme l'entraînement, c'est comme ça, là. Et c'est l'image qu'on a ici. L'ironie, c'est que si tu ne t'épuises pas à faire de l'exercice, le manque d'exercice va t'épuiser. Fais un lien avec l'amour, où c'est difficile d'aimer ardemment celui qui m'a fait mal. Sur le coup, c'est dur, mais no pain, no gain. Tu veux gagner? Tu veux avoir 18 pouces de bras? Tu veux, mon ami, être bâti comme un athlète au niveau de l'amour, aimer ardemment, il faut franchir cette ligne-là, puis continuer, persévérer. Et oui, ça va demander peut-être que tu passes de là, puis que tu ailles l'autre bord, puis tu ailles le voir, puis dire, « Sais-tu quoi? Je t'ai pas vraiment aimé comme j'aurais dû aimer, je te demande pardon. Moi, je veux t'aimer. » Ouais, là, ça peut laisser entendre des affaires, par exemple. En tout cas, vous vous arrangez entre vous autres, là, ça... Je prie pour toi, frère. OK. Ça, ouais, en tout cas, vous êtes capable de faire ça. Hein? Je suis confiance en vous. Là. Je sais que vous allez faire ça comme il faut, là, comme des adultes. Mieux que moi encore, là, c'est correct. Si tu t'épuises à faire de l'exercice, dans le fond, tu seras moins épuisé à long terme. Avez-vous vu l'annonce qui se promène de ce temps-là du gars qui fait du jogging, là, qui vieillit? La même personne, tu vois le même gars. Tu vois un gars, le gars qui est actif, t'es en train de courir. Tu le vois à droite à la TV, là, à gauche, à la télévision. Là. Puis là, il est en train de faire du jogging, mon ami, puis il vieillit bien. Là. Tu vois le même gars à droite qui n'est pas actif. Et là, il est hypothéqué, sa santé est hypothéquée, tout ça, il a besoin de beaucoup de soins, d'hôpital, etc. Puis le message du gouvernement, c'est soyez actif. Mais c'est la même chose avec l'amour. Moins que t'aimes parce que tu as peur de te faire du mal, moins que t'aimes, moins que tu vas vouloir aimer. Ça, c'est comme l'exercice. Moins que tu bouges, moins que tu vas vouloir bouger. C'est très étrange. Le corps répond à ce que tu lui donnes. L'amour, c'est la même chose. Et c'est triste parce que beaucoup de personnes lancent la serviette trop vite, trop tôt, puis commencent déjà négativement. On le voit chez les célibataires, puis on le voit aussi chez les couples mariés, malheureusement. Avez-vous entendu parler de ce jeune garçon-là qui s'en va dans un magasin, dans une boutique, photographie? Il est en labo par-dessus la tête, c'est un célibataire, puis sort avec quelqu'un, il fréquente une fille. Il est en labo par-dessus la tête, il a reçu un beau portrait, un cadre de sa copine. Alors, il s'en va chez le photographe parce qu'il veut faire une copie de sa photo de sa copine. Il veut le mettre dans une coupe de mur chez eux. Là. Il est en amour, tu sais. Il est en amour par-dessus la tête, tout ça, tu sais. Alors là, il demande une copie. Fait que finalement, la photographe est obligée de le sortir du cadre. Parce qu'ils ont fait une copie, OK, c'est correct, sort, puis en arrière, elle n'y avait pas dit, mais elle a écrit un petit mot, un message. Voici ce que ça disait. Ça dit, « Cher Tommy, je t'aime de tout mon cœur. » Regarde ça, c'est beau. « Je t'aime de tout mon cœur. » Est-ce qu'il y a des gars comme, il y a des gens romantiques comme ça ici? Est-ce que tu as fait ça, J.D.? C'est ça que tu écris des mots d'amour comme ça, là? Hein? Becky, I want to know, Becky, does he write you love letters like this? I won't put you in the star. No. Regarde ça, c'est beau. Cher Tommy, je t'aime de tout mon cœur. Chaque jour, je t'aime de plus en plus. Je vais toujours t'aimer. Je suis à toi pour l'éternité, signé Diane. Juste en bas, il y a un PS. C'est écrit PS. Si on arrête de se fréquenter, je veux revoir ma photo. Honnêtement, là. Hein? Mais est-ce que c'est pas rendu comme ça? Là, c'est pas pire, c'est des fréquentations, ça fait mal, c'est une peine d'amour, tout ça, c'est dur. Mais quand ça arrive dans le mariage, c'est vraiment difficile. Hey, savez-vous, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais aux États-Unis, maintenant, il y a une nouvelle mode à Hollywood, puis c'est en train de se répandre aux États-Unis, ça s'appelle le contrat d'amour. Oui, on a déjà entendu parler maintenant du contrat prénuptial, que si jamais on se divorce, on s'entend tout de suite, là, ça va coûter tant. On s'entend tout de suite. Non, là, c'est allé plus loin, on appelle ça le contrat d'amour. Avant de se marier, on signe un contrat que si tu déprimes, j'ai le droit de te divorcer. Si tu es en Grèce, j'ai le droit de te divorcer. Si tu perds ton argent, tu deviens pauvre, j'ai le droit de te divorcer. Puis si on se divorce, voici les ententes, je te donne temps, puis ça finit là. À imaginer, là, on est rendu là, là. C'est là qu'on est rendu. Vous savez, c'est quoi le problème? Hein? C'est que les gens voient l'amour comme un nom, pas comme un verbe. Jésus a changé ça pour un verbe, lui. C'est une action. Aimer, c'est de l'action. C'est d'agir. C'est faire. Heureusement, avec Jésus, il n'y a pas de PS. C'est vrai? Jésus nous accepte comme on est. Il nous a aimés. Il veut nous changer. Il veut nous faire grandir. Il nous a purifiés. Puis il ne nous abandonnera jamais. On lui appartient, puis on lui appartient pour toujours. C'est éternel, cette affaire-là. Et c'est la même chose avec l'amour entre frères et sœurs, les amis. C'est un amour profond qui s'étire comme un marathonien. C'est le genre d'amour qui persévère. C'est ce que Pierre est en train de nous dire. Le passage continue en nous disant que nous devons nous aimer ardemment avec un cœur pur, donc sans malice, sans amertume, sans critiquer dans le dos, et ça signifie pardonner. C'est ça que ça veut dire. Pardonner, là, ça fait mal des fois. Parce que ça veut dire que tu prends la facture, tu acceptes de souffrir, puis tu prends sur toi la souffrance. C'est ça que ça veut dire, là. Pardonner, je prends la facture. Eh bien, certaines personnes disent, c'est bien, mais trop difficile. Moi, je ne suis pas capable de pardonner. Bien, c'est comme l'exercice. C'est difficile, mais par la grâce de Dieu, tu vas être capable. Pour t'aider, inspire-toi de Jésus-Christ. Et on veut prendre la Sainte-Seine ce matin. On veut se rappeler de Jésus-Christ. Il y a peut-être des gens qui ont besoin de régler des comptes ce matin. Peut-être des choses que vous traînez dans votre cœur, de l'amertume depuis des années, et vous voulez régler ça à la croix. Meilleur endroit. Meilleur endroit au pied de la croix. Vous rappelez comment Jésus vous a aimé, vous qui étiez pécheur, vous a accepté, comme vous étiez. Quelqu'un a dit, c'est Tim Keller dans son livre « La raison pour Dieu » a dit ceci, j'aime tellement ça. Il dit, « Jésus est le seul Seigneur qui, si on le reçoit, il nous comblera totalement, et qui, si on le déçoit, il nous pardonnera éternellement. »